Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Mel Emmanuel.
Heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Présidentielle de 2025, les 359 chefs traditionnels de la région du Handball appellent le président Ouattara à se présenter à nouveau. Adoption du texte de loi portant encadrement de la dette publique. Pour l'économiste Prao Yao Séraphin, les députés ivoiriens sont dans la bonne direction. Hors de la Côte d'Ivoire, au Togo, à moins de 2 semaines des élections législatives, une nouvelle constitution vient d'être adoptée. Et ce journal prendra fin avec l'invité de la rédaction, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, se prononcera sur les rapports entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, puis sur ceux du président du PPACI, Laurent Gbagbo, et celui du COGEP, Charles Blégoudé. Bonjour à tous. Nous démarrons ce journal dans la région du Handball où les 359 chefs traditionnels appellent le président Ouattara à poser sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Ils fondent cet appel sur les actions de développement du chef de l'État à travers toute la Côte d'Ivoire et l'ont fait savoir hier lundi à Katiola en présence de nombreux cadres de la région. Écho de cette cérémonie avec Joseph Assalé.
S'il est vrai qu'il est admis que les chefs traditionnels, de par leur statut, sont à équidistance des chapelles politiques, il n'en demeure pas moins qu'ils restent avant tout des citoyens et des observateurs de la vie politique. C'est fort de cela que les 359 têtes couronnées de la région du Handball ont salué les nombreuses actions de développement initiées par le chef de l'État dans leur région. Koulibaly Siaka, leur porte-parole.
Chef que nous sommes, nous n'avons pas de parti politique. Du moins, le parti politique dans lequel nous militons a pour vision le développement, la stabilité, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire.
Selon lui, il est donc impératif que le président Alassane Ouattara continue ce qu'il a déjà entrepris pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire.
Je tiens à annoncer solennellement à la nation ivoirienne et au-delà de nos frontières que les chefs de la région du Handball, particulièrement ceux de Dabakala, demandent instamment au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, de poursuivre l'œuvre commencée. On ne change pas une équipe qui gagne. Il est notre candidat en 2025 pour les présidentielles.
Le président du conseil régional du Handball, Konaté Ibrahim Khalil, par ailleurs ministre de la transition numérique et de la digitalisation, a promis de traduire le plaidoyer des chefs traditionnels du Handball au chef de l'État. Joseph Assalé, Katiola, Radio de la Paix.
Toujours hier lundi, la cérémonie officielle du lancement des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire s'est tenue sur le thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Trois grands principes, à savoir la culture de l'union, la dynamique de solidarité et la valorisation du travail, vont caractériser ces Assises nationales. Mata Touré.
Ce sont 14 régions et 15 localités qui vont servir de lieu de tenue de ces assises sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il s'agit pendant 3 semaines de construire, de jeter les bases d'une plateforme nationale de solidarité féminine. Influencer dans l'union les politiques publiques en faveur des femmes, en un mot, établir une chaîne de solidarité nationale entre les femmes. Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les résultats attendus d'une telle initiative.
Avec un double objectif, créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part et d'autre part constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays.
Au-delà de réaliser l'inclusion au sein de la population féminine, l'objectif ultime est de formuler des propositions concrètes et concertées à l'État, notamment sur la situation des femmes ivoiriennes. Des propositions très attendues par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé.
Une démarche scientifique robuste sera mise en œuvre pour permettre d'aboutir à des conclusions utiles. Il va sans dire que les recommandations de ces assises seront utiles à tous les ministères et à toutes les institutions de Côte d'Ivoire.
À noter que de cette activité découleront des argumentaires scientifiques avec un colloque notamment qui soutiendra les demandes populaires exprimées par les femmes. Une cérémonie de restitution est prévue fin mai 2024. Et le moment clé de cette cérémonie sera la présentation officielle du livre blanc Manifeste des femmes de Côte d'Ivoire.
Au centre de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, à travers la direction du service du civisme et de la citoyenneté, a organisé le samedi dernier à Yamoussoukro la 4e édition de son activité sportive dénommée Happy Run Foam. Il s'agit d'un cross populaire dont l'objectif est de passer la ligne d'arrivée aspergée de poudre colorée. Plus de détails avec Emile Yao.
Cette activité qui a réuni plusieurs centaines de jeunes filles et garçons suit un circuit allant de la Fondation Félix Faure-Boigny à la Place de la Paix de Yamoussoukro a permis aux organisateurs de transmettre aux participants des messages de bonnes valeurs sociétales, explique Georgette Kouassi, directeur du civisme et de la citoyenneté à l'Office national du service civique.
Pour nous, c'est très important de sensibiliser en fait ces jeunes-là contre l'usage de la drogue, de l'alcool, de la chicha, en fait de tous ces éléments-là qui sont nocifs à leur santé. Et donc, le ministère a déployé tous ses dispositifs pour venir parler un peu de sexualité, de l'alcoolisme, de la drogue, tout ça, du respect même des autorités, du respect de l'environnement, pour qu'on puisse notamment accompagner ces jeunes-là.
Sensibiliser, accompagner, mais surtout amener les jeunes à prendre conscience de leur avenir, indique Georgette Kouassi.
La jeunesse doit vraiment prendre conscience que c'est elle l'avenir de maintenant et de demain. Mais aussi, en fait, être l'avenir, c'est être responsable. C'est comprendre que je dois moi aussi me préserver, me protéger, pour pouvoir grandir sainement et puis assurer mes responsabilités plus tard. Et donc, on leur demande de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, de dire non à de juste petits plaisirs qui vont détruire tout leur avenir.
Approché pendant le parcours, Irie Charlotte se veut un relais auprès de ses amis jeunes.
Je voudrais donner des conseils à mes amis, mes camarades, d'arrêter de fumer les chichas, les drogues, pas bon pour la santé.
Notons que cette activité de sensibilisation de la jeunesse se déroule aussi bien à Yamoussoukro qu'à Bujan. Emile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Une note d'économie. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été adopté récemment par les députés. Un vote, que salue l'économiste Prao Yao Séraphin, qui estime que cette nouvelle loi d'encadrement de l'endettement du pays permettra de faire de la politique d'endettement un véritable outil de développement, mais précise-t-il, à condition que les députés soient formés sur ces notions économiques pour mieux jouer leur rôle. Prao Yao Séraphin.
Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai toujours voulu qu'il y ait vraiment un encadrement de la dette parce que, vous savez, dans une démocratie, on dit que c'est la volonté du peuple qui prime. Et donc, du coup, ceux qui ont le droit, la légitimité de représenter le peuple, et donc les députés, devraient être à même de pouvoir encadrer dans une dimension, si vous voulez, de surveillance, effectivement, de l'activité gouvernementale, ce que le gouvernement fait en matière d'endettement. Voyez-vous, on ne s'endette pas comme ça. Il faut une réflexion féconde, une réflexion en amont, pour faire des calculs, pour voir ce qu'on aura demain. Et en fonction de ce qu'on aura demain, c'est dans cette situation-là qu'on pourra décider si on doit s'endetter ou pas.
L'objectif de cette loi, c'est de limiter les risques liés à l'instabilité des marchés financiers et la volatilité des taux de change, et aussi de contribuer à la viabilité de la dette publique. Alors, comment vous jugez la pertinence de cette nouvelle loi?
Je pense que les députés sont dans la bonne direction. Nous sommes disposés, nous autres, à leur apporter effectivement un renforcement de compétences pour que les députés puissent savoir dans quel moment sommes-nous. Il faut que le député sache ce qu'on appelle le risque d'échange est nul. Ça veut dire que aussi longtemps que nous sommes dans un régime d'échange fixe, ce que nous devons payer comme intérêt du crédit reste immuable. Il faut que le député sache cela. Il faut que le député sache aussi ce qu'on appelle le risque financier.
À l'instant, l'économiste Prao Yao Séraphin en ligne avec Jean-Claude Comé. Prenons la direction du nord du pays où l'unité de coordination d'Abidjan Legacy Program ou l'initiative d'Abidjan et Netafim ont effectué une mission conjointe de prospection du jeudi 18 au samedi 20 avril dernier dans les régions du Poro et du Folon. Il s'agissait de faire l'état des lieux des sites propices à la mise en œuvre des projets en vue de promouvoir une intensification durable de la production agricole en recourant à des méthodes innovantes telles que la mécanisation, l'irrigation agricole et l'utilisation de variétés végétales améliorées. À l'étape de la région du Poro, suivons ce compte-rendu de Tommy Corona.
Abou Bamba, coordonnateur de l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme, sur l'état des lieux du site pilote d'Odala Serifongo à Cinéma Tchali.
Les fonds ont été mobilisés, la compagnie qui va nous fournir le matériel a été identifiée aussi, ils ont fait un dimensionnement, les commandes ont été passées. On pense qu'on devrait être livré d'ici le mois de juin, juillet, pour commencer l'installation du matériel et de pompage et du matériel d'irrigation.
Pour mener à bien le projet, l'apport de partenaires techniques et financiers est indispensable. Frédéric Dolon, directeur Afrique d'une firme internationale, l'Etafim.
Nous avons des solutions pour répondre aux défis de l'agriculture aujourd'hui et précisément aux défis que l'on peut rencontrer dans des régions comme la vôtre par rapport à la ressource en eau, ça a été évoqué, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, par rapport à la disponibilité des terres.
Docteur Fatoumata Bamba, cinquième vice-présidente, dit que l'initiative cadre bien avec la vision du ministre-président du Conseil régional du Poro.
La plan d'agriculture agricole de soutenir techniquement et financièrement les femmes et les jeunes en milieu rural. Nous sommes donc convaincus que ce projet apportera des changements significatifs dans notre région. En renforçant nos capacités agricoles et en développant des opportunités économiques durables,
notons qu'Abidjan Legacy Programme, ELP, se veut un puissant accélérateur de développement durable et de transformation agricole de la Côte d'Ivoire dans le but de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2030. Tommy Corona, Korogo, pour Radio de la Paix.
Quittons la région du Poro pour celle du Lodibois. Invité spécial de la population de Ouagalilé, dernier village de Lakota sur l'axe d'Ivo-Gagnoa, le président du conseil de surveillance de l'Office national de l'état civil et de l'identification, Onessi Joseph Diablé, a exhorté les élèves à tourner le dos à la fraude et à la tricherie qui n'honore pas la région du Lodibois. C'était le samedi dernier lors de la conférence, lors de la fête consacrée aux dons d'un bâtiment de trois classes. Abel César Cassin.
Le contexte de la réjouissance de la population de Ouagalilié, dernier village du Lodibois sur l'axe d'Ivo-Gagnoa, tient à la construction d'un bâtiment de trois classes l'année dernière en remplacement de l'existant, vieux d'un demi-siècle, par le conseil régional du Lodibois du temps de Joseph Diablé. Le président de la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Ouagalilié, Robert Dabo-Koudou, ajoute d'autres détails.
Nous sommes ici pour plusieurs raisons. La première raison, c'est vous dire merci parce que l'école, c'est la lumière. Il ne peut avoir de développement sans le savoir, sans être sorti de l'obscurantisme.
Le président du conseil de surveillance de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, Joseph Diablé, saisit cette occasion pour mettre parents et élèves en garde contre la fraude et la tricherie.
Encadrer les enfants, parce que les parents oublient qu'ils aiment jouer beaucoup et notre région est devenue tristement célèbre cette année-là en Côte d'Ivoire parce qu'on allait tricher dans les examens blancs. Mais on te dit de t'entraîner, tu triches. Mais vrai, là, comment tu vas faire? Mais le jour où tu vas travailler là, ce n'est pas le diplôme qui travaille, hein, c'est toi-même. Ce que tu connais là, c'est ce que tu dois faire. On t'a triché.
Les vastes salles de ce beau bâtiment de trois classes ne sont pas pourvues en table banc. De retour de Ouagalilié, Lakota, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Actualité sur le continent, au Togo, à moins de deux semaines des législatives du 29 avril prochain, une nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire vient d'être adoptée par les députés avec un vote sans appel de 87 voix pour et 0 contre. Mais elle est contestée par l'opposition alors que le président de la République, Faure Yassimbe, doit la promulguer dans un délai de 15 jours. Là-dessus, écoutons Maître Jean Yaovi, avocat au barreau du Togo et président du mouvement Bâtir le Togo.
La nouvelle constitution est une constitution qui porte un régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est le régime qu'on a en Allemagne, et en Angleterre, et en Israël et dans d'autres pays. Dans ce régime, le président de la République, il occupe en fait une fonction honorifique. La réalité du pouvoir se trouve entre les mains de celui qui joue le rôle de premier ministre. Dans ce régime, il n'y a pas de limitation de mandat. Tant que votre parti politique est majoritaire à l'Assemblée, ou tant qu'il peut se proclamer majoritaire, eh bien, c'est son représentant qui joue le rôle de chef de gouvernement. Et dans le cas du Togo, on a désigné ce chef de gouvernement sous le vocable de président du Conseil des ministres.
Alors, au-delà donc de la non-limitation de mandat, qu'est-ce qui justifierait aussi le fait que l'opposition, dans sa grande majorité, soit vent debout contre cette nouvelle constitution?
En fait, l'opposition est vent debout aussi à cause de la manière dont la chose a été faite. Je crois qu'il est indispensable qu'on ouvre le débat. Cela doit se faire par référendum. Le peuple tout entier doit être intéressé.
Maître Jean Yaovi Degli, avocat au barreau du Togo et président du mouvement Bâtir le Togo, était interrogé depuis le Togo par Aoussi Potin. Et sans transition, nous revenons en Côte d'Ivoire pour le dernier virage de ce journal, l'invité de la rédaction. Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique, se prononce sur l'actualité sociopolitique ivoirienne de ces derniers temps, marquée par un rapprochement entre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, Alassane Ouattara d'une part, pendant que d'autre part, l'on note une crispation des relations entre Laurent Gbagbo, président du PPACI, et le président du COGEP, Charles Blé Goudé, deux personnalités jadis proches. Pour mieux comprendre ces faits et leur impact possible sur la vie sociopolitique ivoirienne, suivons cet entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour, M. Jean-Claude Comé.
Il y a du développement au niveau de la scène politique ivoirienne, avec notamment un rapprochement, si on peut le qualifier ainsi, noté entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le régime Ouattara. Quelle explication on peut donner avec l'appel de Guillaume Soro au chef de l'État?
D'abord, on peut dire que ce rapprochement s'inscrit dans la dynamique de réconciliation nationale amorcée par le président Alassane Ouattara. Vous savez très bien qu'il y a de cela quelques mois, il avait pris une mesure de grâce pour certains collaborateurs de M. Guillaume Soro. Et donc, on peut dire que ce rapprochement entre M. Soro et le président Ouattara s'inscrit dans cette dynamique. Ensuite, nous sommes à 19 mois de la présidentielle de 2025 et là, des deux côtés, nous sommes dans la mise en place des stratégies pour ce scrutin important. Monsieur Soro Guillaume a toujours montré sa volonté d'être candidat à l'élection de 2025 et pour cela, il a besoin de Monsieur Alassane Ouattara parce que pour candidater, il lui faut être sur le territoire national et seul le président de la République a la solution à son problème. Deuxième chose, c'est que M. Ouattara, lui également, a besoin de M. Soro, parce qu'on assiste à une recomposition du paysage politique ivoirien depuis l'arrivée à la tête du PDCI-RDA de M. Tidiane Thiam. Et donc, M. Alassane Ouattara, dans la perspective de 2025, a besoin de M. Soro Guillaume pour consolider sa base électorale, surtout dans le septentrion ivoirien. Et donc, c'est un rapprochement gagnant-gagnant.
Alors, pendant que nous notons ce dégel des relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, d'un autre côté, on note un certain durcissement de ton entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Récemment, l'ex-président a lancé des piques à l'endroit de celui qu'on peut qualifier d'un de ses soutiens fervents lorsqu'il était à la tête de l'État ivoirien. Comment on peut décrypter donc cette sortie de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo?
D'abord, il faut dire que le discours d'Agboville montre très bien qu'il y a des dissensions profondes entre le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Par ailleurs, ces dissensions montrent très bien que le rassemblement de la gauche avant 2025 n'est pas pour aujourd'hui. Et ce qui met en difficulté la gauche ivoirienne dans sa tentative de reconquête du pouvoir d'État.
Mais au vu de ces situations-là, d'un côté, un rapprochement qui, pour l'instant, n'est pas encore formalisé entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, et puis de l'autre côté, ces scissions notées entre Blé Goudé et son ancien mentor, Laurent Gbagbo, quelles conséquences éventuellement sur la scène politique?
Oui, évidemment, tout ceci met en pole position le camp présidentiel. Le RHDP, nonobstant son bilan, qui sur le plan économique peut être valablement défendu, en se rapprochant de Soro Guillaume, se donne encore des chances de conserver le pouvoir en 2025, d'autant plus que ses adversaires, surtout la gauche est en train de s'entre-déchirer. Et je pense que la dernière sortie de M. Laurent Gbagbo montre très bien que la gauche, en 2025, ira en rang dispersé, ce qui évidemment réduit considérablement ses chances de reconquête du pouvoir. Mais au milieu des deux se trouve le PDCI-RDA et M. Tidiane Thiam qui peut profiter de cette dissension entre les membres de la gauche pour se positionner en véritable challenger. Mais aussi, il faut noter que depuis la dynamique donnée par Ousmane Sanko et Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, il est fort possible qu'avant 2025, on voit surgir sur la scène politique ivoirienne de nouveaux acteurs politiques, des jeunes loups de la politique qui peut-être vont venir bouleverser les données.
La configuration politique ivoirienne aujourd'hui que nous notons, pour pouvoir accéder au pouvoir, il y a donc deux fois ce qu'on peut qualifier de collaboration contre nature ou contre idéologie. Quelle est votre perception en tout cas de ces jeux d'alliance?
Vous savez que la classe politique idéologiquement, qu'elle soit de la gauche ou de la droite, se résume à cette maxime, la politique est une saine appréciation des réalités du moment. Et d'ailleurs, M. Laurent Gbagbo ne cesse de le dire, en politique, il n'y a pas d'alliance contre nature, il n'y a que des alliances. Et donc, tout ceci n'est pas du tout étonnant. Et d'ailleurs, le mode de scrutin utilisé en Côte d'Ivoire, qui est l'élection à deux tours, fait que pour gagner au deuxième tour, les uns et les autres sont obligés de chercher des partenaires. Et donc, déjà, se dessinent les grandes alliances. D'un côté, on aura M. Soro et M. Ouattara. De l'autre, on aura M. Laurent Gbagbo et une gauche totalement dispersée. Et au milieu, certainement, on verra M. Tidiane Thiam qui va essayer de chercher d'autres alliés sur la scène politique ivoirienne.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Claude Comé.
À l'instant, l'invité de la rédaction, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique en entretien avec Jean-Claude Comé. À leur suite, le rappel des titres de ce journal. Présidentielle de 2025, les 359 chefs traditionnels de la région du Hambol appellent le président Alassane Ouattara à se présenter à nouveau, un appel qu'il fonde sur les actions de développement menées par le chef de l'État. Adoption du texte de loi portant encadrement de la dette publique. Pour l'économiste Prao Yao Séraphin, les députés ivoiriens sont dans la bonne direction. Et hors de la Côte d'Ivoire au Togo, à moins de deux semaines des élections législatives, une nouvelle constitution vient d'être adoptée. Une constitution qui fait l'objet de contestations de la part de l'opposition. Fin de cette édition de la mi-journée, tout de suite la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti. Quant à moi, je vous retrouve à 15h pour un flash.
Bonjour à tous, la première assise nationale des femmes de Côte d'Ivoire est au menu de nos...